Laudetur Jesus Christus.
La société israélienne toujours sous tension depuis la décision du gouvernement de limoger le chef du renseignement intérieur. Ce lundi, Benjamin Netanyahou a de nouveau dénoncé les agissements de Ronen Bar. Dans le même temps, les frappes se poursuivent, elles, sur la bande de Gaza. La situation des Palestiniens est critique. C'est le cas aussi en Cisjordanie. C'est ce que nous dira l'ONG Médecins Sans Frontières. La rue turque toujours mobilisée après l'emprisonnement du maire d'Istanbul, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. Une crise en Turquie enlevée qui inquiète la Grèce voisine. À la une de ce journal également, le président congolais Félix Tshisekedi qui tente de former un gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre dans l'est du pays. Et puis nous irons également en Thaïlande où depuis ce matin, les députés du royaume débattent sur une motion de censure qui vise la première ministre.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Et bonsoir. Le gouvernement israélien poursuit sa pression contre Ronen Bar, l'ancien directeur du Shin Bet, le service de renseignement intérieur. Dans un communiqué publié ce lundi, Benjamin Netanyahou l'accuse, je cite, de saper les fondements de la démocratie en ayant voulu enquêter sur le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir en charge de la sécurité nationale. Le limogeage de Ronen Bar voulu par le gouvernement a jeté dans la rue des milliers d'Israéliens qui dénoncent une dérive autocratique. Dans le même temps, l'armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza. C'est le cas ces dernières heures, notamment dans la ville de Rafah, au sud de l'enclave. Le CICR a annoncé que ses locaux avaient été endommagés par un projectile explosif. La pression est aussi maximale en Cisjordanie. Elle est même extrêmement précaire, selon l'ONG Médecins Sans Frontières, qui décrit des conditions de vie et de survie des Palestiniens déplacés en Cisjordanie. Le territoire occupé fait l'objet d'une offensive israélienne depuis plus de deux mois qui prive la population d'abris adéquats, de services de base et de soins de santé. Les trois principaux camps de réfugiés de Cisjordanie sont réduits en cendres, investis essentiellement par Tsahal. Un contexte d'opérations humanitaires très périlleux pour MSF sur place, dont témoigne la responsable plaidoyer de l'ONG, Justine Lefeuve. Elle est basée à Jérusalem.
C'est maintenant la neuvième semaine que cette opération prend place à Jenin, mais aussi à Tul Karem. Des agences des Nations Unies rapportent que plus de 40 000 personnes ont été déplacées. Et on parle pour la majorité de déplacés, ce sont des réfugiés déplacés, puisqu'ils ont été déplacés des camps de réfugiés qui sont maintenant presque totalement vides, où les forces israéliennes sont présentes pour empêcher les gens de revenir. Nous sommes très préoccupés parce que ces personnes, elles n'ont plus de logement, elles logent chez des amis, chez de la famille, mais aussi dans des abris communautaires. Elles n'ont plus d'accès à beaucoup de services essentiels, notamment la santé. On intervient aussi pour leur venir en aide à ce niveau-là avec d'autres acteurs en distribuant des matelas, des couches, du lait en poudre, de la nourriture, mais aussi en leur apportant des soins de santé primaires à travers des cliniques et des équipes mobiles, notamment dans les abris communautaires.
Justine Lefeuve de Médecins Sans Frontières, interrogée par Delphine Allaire. Le Hamas a lui diffusé cet après-midi une vidéo de deux otages israéliens ce lundi dans la bande de Gaza. La date n'a pas pu être identifiée, mais on les voit assis tous les deux, évoquant le danger auquel ils sont confrontés depuis la reprise des frappes de Tsahal depuis une semaine. Le cardinal Claudio Guggerotti, le préfet du Dicaster pour les églises orientales, lui, lance un nouvel appel pour les chrétiens de Terre Sainte. Ils ont plus que jamais besoin de notre aide dans cette période sombre. Dans un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet, le cardinal rappelle combien l'église se doit d'insister pour que les chrétiens de la région restent sur leur terre, berceau du christianisme. L'Union européenne exhorte la Turquie a respecté les valeurs démocratiques. Au lendemain de l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, opposant numéro un au président Erdogan, des centaines de milliers de Turcs sont de nouveau descendus dans les rues de la plus grande ville du pays hier. Les autorités ont interdit les manifestations dans les principales villes, interdiction bravée aujourd'hui par des étudiants à Ankara. Une crise turque qui inquiète un pays d'Europe, en particulier la Grèce voisine. Athènes ne cache pas en effet sa préoccupation devant la dégradation de la situation. Les explications de notre correspondante Alexia Kefalas.
Les manifestations monstres en Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, monopolisent les médias grecs. Les rebondissements du pays voisin passent même devant les actualités locales. Et le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Pavlos Marinakis, estime que la situation politique en Turquie est, je cite, « instable et préoccupante » et ajoute que les concessions à l'état de droit et aux libertés civiles ne peuvent être tolérées. Le porte-parole grec a invité le gouvernement turc à fournir, je cite, « des réponses convaincantes pour toute violation politique ». présumée de ces principes. Car si la tension entre la Grèce et la Turquie continue de grimper, des négociations de paix devaient se tenir entre le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara le 8 avril prochain, selon la presse grecque. Mais dans ces conditions, il serait difficile, je cite, d'organiser cette rencontre, selon Athènes. Les tensions ne risquent donc pas de s'apaiser. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Du mouvement dans les relations entre les États-Unis et l'Iran après la fameuse lettre du président américain Donald Trump à laquelle doit encore formellement répondre la République islamique, le chef de la diplomatie iranienne se dit ouvert à des négociations indirectes avec Washington. La voie est ouverte, mais aucun dialogue direct sans changement d'approche de la part des États-Unis, avertit le ministre Abbas Araghchi. L'une des pièces maîtresses de ces discussions indirectes pourrait être les Houthis du Yémen, dont les échanges de frappes se multiplient avec les États-Unis en mer Rouge. Les Houthis yéménites, l'Iran et les États-Unis qui seront à la une de notre dossier demain matin. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est loin d'être réglé. Perd un médiateur, l'Angola. Depuis 3 ans, le pays lusophone offrait ses bons services pour tenter de rapprocher la RDC et le Rwanda. Mais Luanda a annoncé ce lundi renoncer à ce rôle pour se consacrer à sa présidence tournante de l'Union européenne. Dans le même temps, le président congolais Félix Tshisekedi tente, lui, de former un gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre dans l'est du pays. Il a lancé aujourd'hui une consultation de 2 semaines avec les partis politiques et les forces de la société civile. Mais ces consultations sont boycottées par les principales formations de l'opposition. Elles priorisent en effet les consultations lancées depuis le mois dernier par les évêques catholiques et les pasteurs protestants de RDC. À Kinshasa, Pascal Moulégois.
Les partis de l'opposant Moïse Katumbi est farouchement opposé à ces consultations. Hervé Diakiesse est son porte-parole.
C'est une perte de temps. Nous nous inscrivons dans les cadres de consultations menées par les évêques.
Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti En Vol de Délices et Sanga, va dans le même sens.
Le pouvoir Tshisekedi doit ravaler son orgueil et placer l'intérêt du peuple au-dessus de calculs politiciens en adhérant à cette démarche portée par le père de l'Église. Seule voie crédible de restaurer la paix et la cohésion nationale.
Prince Epengue, le porte-parole de la coalition Lamouka de Martin Fayoulou, évoque des consultations inopportunes et déplacées.
Ce n'est ni la voie, ni la solution, ni les cadres. Félix Tshisekedi a tapé à côté. La situation est dramatique. Le Congo est au bord du précipice. Est-ce que les consultations, en débauchant certains opposants aux esprits faibles, va résoudre cette crise?
Et pour Franklin Tshamala, secrétaire général du parti LGD de Matata Ponyo,
nous sommes par contre favorables aux initiatives qui vont dans le sens de favoriser la tenue du dialogue pour un consensus national tel que porté par les pères spirituels de la CINCO et de l'ECC.
Pour ces premiers jours, les consultations s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. Pascal Moulégua, Kinshasa,
RFI, pour Radio Vatican.
Le conflit dans l'est de la RDC qui a provoqué la fuite de plus de 100 000 civils ces dernières semaines dans les pays voisins, en particulier au Burundi. La Thaïlande est une nouvelle fois traversée par les tensions politiques. Depuis ce lundi, les députés du royaume débattent sur une motion de censure qui vise la première ministre thaïlandaise. L'opposition l'accuse de faire passer des intérêts privés avant ceux de la nation. Les précisions de notre correspondant à Bangkok, Valentin Sebron.
Début de semaine agité en Thaïlande, Petongtan Shinawat est visé par une motion de défiance déposée le mois dernier par le Parti du Peuple et débattue aujourd'hui et demain par les parlementaires thaïlandais. Outre une mauvaise gestion de l'économie, le principal parti d'opposition accuse la première ministre de faire passer les intérêts de sa famille au détriment du peuple thaïlandais, notamment de laisser son père, l'influent et controversé Thaksin Shinawat, ancien premier ministre de 2001 à 2006, tirer les ficelles du pouvoir. Le vote de défiance aura lieu mercredi, mais il y a peu de chances que cette motion de censure soit adoptée par l'Assemblée, où le gouvernement de coalition dirigé par Petongtan Shinawat dispose d'une confortable majorité. C'est néanmoins l'occasion pour l'opposition de marquer des points auprès du grand public, à l'heure où la plupart des Thaïlandais sont, selon un sondage, mécontents de l'actuel gouvernement.
Valentin Sebron, notre correspondant en Thaïlande. Et puis en Corée du Sud, le Premier ministre lui sauve son poste et échappe à la destitution. La crise politique qui secoue la Corée du Sud depuis près de 4 mois et la tentative du président Yoon d'imposer la loi martiale arrive bientôt à son terme avec les verdicts de la Cour constitutionnelle. Et si le Premier ministre sud-coréen retourne à son poste, le président lui attend encore la décision des juges. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera demain matin à 8h30. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente soirée.